C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Petit conte malicieux de Gudule et Stéphane Girel. Moitié poulet. Mame Rosalinde et Tisoison étaient sœurs. Et si pauvres qu'à elles deux, elles ne possédaient pour tout bien qu'un seul poulet. Mais quel poulet, mes aïeux! Dodu à souhait, la crête fière, le plumage aussi blanc que celui d'une colombe. Certes, elles avaient de bonnes raisons d'être fières. Un jour qu'elles avaient grand faim, Mame Rosalinde dit à sa sœur « Si nous mangions le poulet ?»« Manger le poulet ?» s'indigna Tisoison. « Jamais de la vie !»« Et pourquoi donc ?»« Parce qu'une fois le repas terminé, nous n'aurons plus rien. Tandis que, si nous le laissons en vie, notre poulet deviendra une poule et nous donnera des œufs. » grâce auxquelles nous pourrons faire chaque jour de bonnes omelettes. » C'était sagement raisonné. Mais Mame Rosalinde, qui préférait le poulet rôti aux omelettes, ne voulut rien savoir. « Libre à toi d'utiliser ta part comme tu l'entends, » déclara-t-elle. « Moi, je veux manger la mienne, et tout de suite. » Elles coupèrent donc le poulet en deux, et Mame Rosalinde mit son demi-poulet au four, tandis que celui de Tisoison demeurait dans la cour, assoutillé sur une seule patte, en picorant le sol de son demi-bec. Le temps passa, et Moitié Poulet devint un magnifique poulet qui pondit des œufs, mais des demi-œufs, dont Tisoison se régala, sous le regard envieux de sa sœur qui, elle, devait se contenter de galettes de mil. Or, il advint qu'un jour, Moitié Poulet, en cherchant des vers avec son demi-bec, déterra un trésor. « Quel bonheur ! Nous sommes riches !» applaudit Mame Rosalinde, toute contente. « Je suis riche !» rectifia sévèrement Tisoison. « Ce trésor m'appartient, et à moi seul, puisque c'est mon Moitié Poulet qui l'a trouvé. « Mais ça, as-tu perdu la tête ?» Ce poulet, nous l'avons hérité de notre mère, et ce qu'il trouve est à nous deux. » Une dispute s'ensuivit, et, comme ni l'une ni l'autre ne voulait en démordre, l'affaire fut portée devant le conseil des sages. Après avoir longuement écouté chaque plaignante, celui-ci délibéra. Et Tisoison eut gain de cause. Mais Mame Rosalinde mijotait sa revanche. Une nuit, pendant que sa sœur dormait, elle enleva Moitié Poulet et le cacha en un endroit connu d'elle seule. Je vous laisse imaginer le raffut que fit Tisoison le lendemain matin en voyant la cour vide. « Moitié Poulet !» criait-elle en cherchant partout. Sa sœur lui expliqua que, durant son sommeil, des voleurs l'avaient emporté. « Ils m'ont dit de te dire qu'ils te le rendraient contre la moitié du trésor, » précisa-t-elle. « Alors qu'ils le gardent, » répondit Tisoison. « Qu'ai-je à faire d'un demi-poulet, maintenant que je suis riche ?» Elle s'en fut au marché, acheter toute une basse-cour.
Le Pélican. Un poème de Robert Desnos. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc, et il en sort un pélican, lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond, à son tour, un œuf tout blanc, d'où sort, inévitablement à un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps, si l'on ne fait pas d'omelette avant. Histoire à la petite semaine de Rachel Corambly et Cécile Bonbon. Chaque année, pour les vacances de printemps, je me délocalise une semaine chez papy. C'est son expression, la délocalisation. Il ajoute qu'en politique, c'est un principe qui le dérange, mais que pour ses petits-enfants, il veut bien faire une exception. C'est comme ça qu'il cause, papy. Il le dit en se frottant ses joues couvertes de poils blancs qu'il ne rase pas souvent, en clignant de l'œil droit. Maman marmonne que papy a un air de sacré canaille. Elle ne sait pas si c'est une bonne idée de nous laisser trop longtemps avec lui. Elle ne dit rien, mais elle le pense si fort que ça clignote dans ses yeux. Je ne suis pas la seule à être délocalisée à la campagne. Il y a aussi Jules, mon cousin, qui mesure 3 mètres de plus que moi. Même s'il a mon âge et qui passe son temps à parler rugby, vu que c'est son sport préféré. Il est à peine sorti de la voiture qu'il balance son ballon ovale dans les azalées. Et pour papy, il n'y a pas pire crime que d'écrabouiller ses azalées. Alors, il attend que nos parents aient disparu de l'horizon. Il nous demande d'enlever nos chaussures et on s'enfonce dans son jardin. Marcher sans chaussures, c'est interdit par ma mère. C'est vrai, papy est une sacrée canaille. Lundi. Le premier jour, papy ne nous ménage pas. Il dit qu'on vient de la ville, que nos joues sentent le pot d'échappement et qu'il faut revenir aux origines pour retrouver une vraie odeur. Il répète que la civilisation nous ramollit le ciboulot et nous rend crétins. Avec Jules, on ricane un peu à cause du mot crétin. Sans nous prévenir, il nous jette des pelletées de terre dessus. D'un coup, vlan, une fontaine de bouillasse nous recouvre et s'étale sur nos visages et nos cheveux. On doit s'y rouler comme des vermisseaux. Plus on est sale, et plus papy sourit. C'est le monde à l'envers. Et j'aime bien ce côté-là. On se frotte, on se recouvre de boue grasse qui dégouline de partout en se poussant. Jules fait semblant de s'écrouler et je lui saute dessus. La terre nous rentre dans la bouche et on la mâche et on la recrache et on rigole et on se fait un shampoing de gadou. Mardi. L'histoire, c'est son dada à papy, avec le jardinage. Galilée, Léonard de Vinci, Karl Marx, Pablo Picasso, tous ces gars bizarres avec des noms de rues et d'écoles. C'est comme s'il les avait connus, comme s'il les tutoyait. Pareil pour ces forciciens, à qui il cause tous les mardis matins, pour les encourager à fleurir. « Petite !» dit-il. Vous savez ce qu'on dit sur Christophe Colomb? Les fleurs frémissent un peu, mais se taisent. Je m'approche et je réponds à leur place. Non, papy. Il se frotte les joues sans me regarder. On dit qu'il a découvert l'Amérique, n'est-ce pas? Le silence des fleurs est interminable, alors c'est Jules qui répond. Ben oui, papy, tout le monde le sait. C'est des âneries. Ânerie, c'est son mot préféré, avec crétin et tonnerre de Brest. Le père Christophe, il n'a pas découvert l'Amérique, il a inventé les colons. La pire des inventions. Des gars qui débarquent sur un continent, après avoir traversé les océans, sûrs qu'ils sont les meilleurs et les plus forts, pour enchasser les habitants, leur filer une rougeole mortelle et leur piquer leur terre pour y faire pousser des buildings des siècles après, en bouffant des hamburgers et en mâchant du chewing-gum. Les forciciens en frémissent presque. Et je m'empresse de préciser qu'on ne peut pas manger un hamburger en même temps qu'un chewing-gum, même si elles ne peuvent pas le comprendre. Mercredi. Papy est bizarre, un peu. Il appelle ses tulipes les 1789. Les géraniums de l'allée sont les 1848. Les pétunias, les 1871. Et les narcisses, les 1968. Il a donné une date de Révolution française à chacune des plantes de son jardin. Et à ma mère, il a donné un nom de fleur. La plus belle, d'après lui, et la plus courageuse et la plus rebelle aussi, Rosa. Jeudi. Contrairement à maman, papy, c'est le roi de la cuisine. Le jeudi, il nous mijote une poule au pot, le plat du roi Henri IV, il affirme. Le plus grand roi des rois. Le plus grand des rois. Et pourtant, à la base, papy, il n'est pas pour les rois. Il est même archi contre. Il dit que les faire zigouiller à la guillotine, c'était plutôt une idée de génie, et qu'on devrait peut-être reprendre les bonnes habitudes perdues. Sur sa terrasse, il fait pousser des herbes aromatiques dans des pots qui débordent de couleurs. On s'en approche avec précaution, comme si les bruits pouvaient les terroriser. Il a écrit sur des étiquettes le nom des plantes. La ciboulette, le cerfeuil, le thym, l'estragon, la sarriette. C'est mieux qu'un poème. La poule au pot doit cuire longtemps, enveloppée dans ses feuilles, comme dans un bain d'amour, il nous dit. C'est que Henri IV, il s'y connaissait en amour. Et en petites poulettes. Bon, pas forcément cuites. Il nous balance un clin d'œil. Un joyeux luron, ce roi, il continue. Pas un de ces trois tocards de roi qui ne pensait qu'à se remplir les coffres de l'or de son peuple. Il voulait que ses gens fassent la fête le dimanche autour d'un bon plat. L'invention de la poule au pot, c'était mettre le bonheur à portée d'assiette. Et le bonheur, les enfants, c'est plus facile à trouver le ventre plein que vide. Il repousse sa casquette vers l'arrière de son crâne et il ajoute « Bon, nous, on s'en fiche, du dimanche ou du jeudi. On la mange quand on en a envie. » Il s'enferme dans la cuisine. Les odeurs nous entrent dans les trous de nez. Et quand on engloutit son plat, Jules et moi, c'est comme si l'histoire de France nous remplissait le bide. Vendredi. Quand la pluie tombe, la maison de papy craque de partout. Les murs bougent, les fissures s'agrandissent. Je jure que je n'ai pas peur, mais je me lève et je m'approche du lit de Jules. Il fait semblant de dormir. Il ne sursaute pas quand je lui chuchote « Tu crois aux fantômes ?» Il me répond « Oui, et je suis rassurée. » Je soulève sa couette et je m'installe à côté de lui et je lui chuchote « Tu as vu, quand je dis ton prénom, les rideaux bougent. »« Tu crois ?»« Oui, » je murmure. « C'est peut-être le fantôme de Jules César ?» Jules César, il finit par chuchoter ou « Jules Verne ?»« Ah ! » Ou « Jules Ferry ?» Après, on se tait. On ne connaît plus un seul Jules célèbre et mort qui pourrait revenir nous hanter et la maison continue à se plaindre. Elle est comme un arbre trop vieux qui se fendille et peut-être que les fantômes aiment bien le bois pourri. Je souffle mon idée à l'oreille de mon cousin et nous nous levons sans faire de bruit. Le couloir est long jusqu'à la chambre de papy. Il ne dort pas encore, et sa casquette est posée sur le sommet de son crâne. Il nous explique que le bruit vient de tout le lierre qui entoure la maison. Un lierre avec plein de nœuds et de lianes, qui monte jusqu'au toit. Et forcément, il est bruyant. Parce que le lierre est vivant et qu'il respire. Tous les bruits, c'est le souffle des feuilles et des tiges qui poussent. On se glisse dans le lit de papy et on s'endort en cherchant les prénoms de tous les autres Jules qu'on a oubliés. Samedi. Pas de télé chez papy. Rien que le jardin et la pluie qui nous tombe dessus le samedi. Avec Jules, on colle notre front contre la vitre. L'ennui a une odeur de buée. Papy, je demande. T'es vieux ? Il hausse les épaules. Oui, je continue. Si tu es vieux, c'est que tu as fait les guerres. La première et la deuxième. Et avant aussi, la guerre de 100 ans. Et la guerre du feu. Un paquet de guerres. Il sort son mouchoir pour se frotter le nez. C'est la seule personne au monde qui utilise encore des bouts de tissu à carreaux. C'est pas grave d'être vieux, papy, je dis. Et Jules acquiesce. Il range son mouchoir et il me regarde. La guerre d'Algérie, il bougonne. Tu as oublié celle-là. Il se lève, on sort, sans manteau, sans parapluie. L'orage nous trempe en 2 secondes. On contourne les piquets prévus pour les tomates. Papy s'immobilise en face des salades. L'eau ruisselle sur son visage. Et je trouve qu'il a une tête de Batavia, mon grand-père. Un visage fripé, avec des plis partout, comme les feuilles qui se cachent les unes sous les autres. Il nous regarde et il sourit. Je comprends, à ce moment, qu'on peut être vieux comme une salade, avoir survécu à toutes les guerres et sourire comme un gamin. Dimanche. Le vieux sol pleureur du jardin est immense. À l'intérieur, le rideau de feuilles denses nous sépare du monde. C'est comme une chambre secrète qui frissonne quand le vent la frôle. On s'y retrouve à la tombée de la nuit avec papy et Jules. On guette les étoiles à travers les branches. Et quand on est plongé dans le noir, papy allume une bougie. Et c'est magique. Le silence du saule qui nous accepte dans son ventre. Et il nous raconte ses histoires. D'abord, Jeanne d'Arc, il dit. Vous croyez vraiment qu'elle entendait des voix, non d'une pipe en bois, et qu'elle a brûlé sur son bûcher toute fière de son martyre? Oh, mais la Jeannette, je suis sûre qu'elle aurait donné tout l'or de son siècle pour vivre jusqu'à 80 ans. Sûre qu'elle aurait adoré avoir un amoureux et des bambins à faire sauter sur ses genoux. Le saule tangue, le ciel essaie de s'incruster entre les branches. Et Napoléon, il voulait qu'une seule chose, gagner des centimètres et mesurer plus d'1,50 m. On ne le dit pas dans vos bouquins que la taille d'un homme peut être importante. Plus on est petit, plus on aime diriger le monde. C'est notre dernière soirée, tous les trois. Dans quelques instants, nos parents vont débarquer. L'ordre, la loi, les devoirs. L'obligation de se laver les dents et de se doucher. Alors, avec Jules, on ouvre nos oreilles, à fond. On essaie de freiner des 4 fers pour arrêter le temps et on profite de chaque minute sauvée.
Propriété privée. Un poème de Nazreni. Mur de pierre, niche à lierre, joli mur, mur mystère, quoi derrière joli mur? Pas de honte, mur, je monte, sur ton dos, alpiniste, héroïsme tout en haut. Mais qui t'a coiffé de ciment? Qui t'a mis ces vers tranchants? Mur méprise, mur traîtrise, mur salaud, mur blessant, mur méchant. Ainsi, faux. Mur écharde, mur de garde, t'es qu'un chien. Bouge pas, reste là, je reviens. Vas-y, casse, casse ma pierre, casse-les tous ces bouts de verre. Que temps me prenne et mal me donne, ce mur ne mordra plus personne.
Enzo et le monstre du plafond. Une histoire de Franck Perrault, illustrée par Clotilde Perrin. Aux éditions Attier, collection Ribambelle. À la nuit tombée, Enzo a peur.
« Il y a une monstre énorme au plafond, maman. Je vois son ombre, papa. »«
Mais tu es encore debout, toi ?»«
Oh, j'ai déjà compté les moutons jusqu'à des nombres longs, vraiment très longs, mais... »
Enzo dit que le monstre fait des ronds autour de son lit. Il ne peut pas dormir avant 11 heures, minuit parfois. Papa l'aide à compter les moutons. Maman lui promet des bonbons. Ça ne marche pas. La peur, c'est terrible. Ça ne peut plus durer. Les parents d'Enzo l'écoutent attentivement et sans attendre, ils en parlent à son maître.
« Enzo est toujours un peu endormi en classe, » dit le maître. « C'est sûrement dans sa tête. »« Souvent, la rentrée, les nouveaux amis, apprendre à lire. Ça fait beaucoup de nouveautés pour les enfants. Mais ce n'est pas méchant, il faut du temps. Ne vous faites pas de mauvais sang. Ça passera rapidement. »«
Oui, mais non, » dit Enzo. « Il y a vraiment un monstre dans mon appartement. Il est collé au plafond de ma chambre. » Il est très méchant. Il mange les enfants. C'est épouvantable.
C'est dans sa tête, dit encore le maître.
Les parents demandent l'aide de mamie.
Enzo, elle est très tirée, dit mamie. C'est sûrement dans son cœur.
Oui, mais non, dit Enzo. Je ne fais pas semblant. Il a de grandes dents blanches. Il est très laid.
C'est dans son cœur, dit encore mamie.
Puis c'est le médecin.
Oh, il faut penser aux aliments. Surtout cuisiner des plats légers, dit le médecin. C'est sûrement dans son ventre.
Oui, mais non, dit Enzo. Je ne fais pas semblant. Il attaque les enfants qui grandissent, et moi je grandis, alors j'ai vraiment peur.
C'est dans son ventre, dit encore le médecin.
C'est pas ma faute, dit Enzo. Il est autant dans ma tête que dans mon cœur que dans mon ventre.
Par ma pipe, dit papa, ça suffit.
Il sort son marteau, son niveau, sa scie à métaux. Tous ses outils et bricole une machine anti-monstre.
Ça va chauffer. Je vais le mettre en petits morceaux, lui faire des trous partout, le faire réfléchir une bonne fois pour toutes. Dehors le monstre.
Non ! Crie Enzo. Si le monstre se retrouve en petits morceaux, qui viendra m'aider pour les moutons ou me donner des bonbons ?
Mais... le rassure maman. S'il ne tourne plus autour de toi, tu seras sauvé, mon tout beau. Plus besoin de bonbons ni de moutons, mon moineau.
Oui, mais non.
Parce qu'ils sont drôlement beaux, les moutons. Et c'est pas mauvais, les bonbons.
Vous venez d'écouter C'est en lisant qu'on devient liseron. Une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département. Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.